Sophisme économique de Frédéric Bastiat. Sophisme économique, première série, 1845. En économie politique, il y a beaucoup à apprendre et peu à faire. Citation de Bentham. J'ai cherché dans ce petit volume à réfuter quelques-uns des arguments qu'on oppose à l'affranchissement du commerce. Ce n'est pas un combat que j'engage avec les protectionnistes. C'est un principe que j'essaie de faire pénétrer dans l'esprit des hommes sincères qui hésitent parce qu'ils doutent. Je ne suis pas de ceux qui disent « la protection s'appuie sur des intérêts ». Je crois qu'elle repose sur des erreurs ou, si l'on veut, sur des vérités incomplètes. Trop de personnes redoutent la liberté pour que cette appréhension ne soit pas sincère. C'est placé haut mes prétentions, mais je voudrais, je l'avoue, que cet opuscule devint comme le manuel des hommes qui sont appelés à prononcer entre les deux principes. Quand on ne s'est pas familiarisé de longue main avec la doctrine de la liberté, les sophismes de la protection reviennent sans cesse à l'esprit sous une forme ou sous une autre. Pour l'en dégager, il faut à chaque fois un long travail d'analyse, et ce travail, tout le monde n'a pas le temps de le faire. Les législateurs, moins que personne. C'est pourquoi j'ai essayé de le donner tout fait. Mais dira-t-on, les bienfaits de la liberté sont-ils donc si cachés qu'ils ne se montrent qu'aux économistes de profession? Oui, nous en convenons, nos adversaires dans la discussion ont sur nous un avantage signalé. Ils peuvent en quelques mots exposer une vérité incomplète, et pour montrer qu'elle est incomplète, il nous faut de longues et arides dissertations. Cela tient à la nature des choses. La protection réunit sur un point donné le bien qu'elle fait et infuse dans la masse le mal qu'elle inflige. L'un est sensible à l'œil extérieur, l'autre ne se laisse apercevoir que par l'œil de l'esprit. C'est précisément le contraire pour la liberté. Il en est ainsi de presque toutes les questions économiques. Dites, voici une machine qui a mis sur le pavé 30 ouvriers, ou bien... voici un prodigue qui encourage toutes les industries, ou encore la conquête d'Alger a doublé le commerce de Marseille, ou enfin le budget assure l'existence de 100 000 familles. Vous serez compris de tous, vos propositions sont claires, simples et vraies en elles-mêmes. Déduisez-en ces principes, les machines sont un mal, le luxe, les conquêtes, les lourds impôts sont un bien, et votre théorie aura d'autant plus de succès que vous pourrez l'appuyer de faits irrécusables. Mais nous, nous ne pouvons nous en tenir à une cause et à son effet prochain. Nous savons que cet effet même devient cause à son tour. Pour juger une mesure, il faut donc que nous la suivions à travers l'enchaînement des résultats jusqu'à l'effet définitif. Et puisqu'il faut lâcher le grand mot, nous sommes réduits à raisonner. Mais aussitôt nous voilà assaillis par cette clameur. Vous êtes des théoriciens, des métaphysiciens, des idéologues, des utopistes, des hommes à principes, et toutes les préventions du public se tournent contre nous. Que faire donc? Invoquer la patience et la bonne foi du lecteur, et jeter dans nos déductions, si nous en sommes capables, une clarté si vive que le vrai et le faux s'y montrent à nu, afin que la victoire, une fois pour toutes, demeure à la restriction ou à la liberté. J'ai à faire ici une observation essentielle. Quelques extraits de ce petit volume ont paru dans le journal des économistes. Dans une critique d'ailleurs très bienveillante que M. le vicomte de Romanet a publiée, voir le Moniteur industriel des 15 et 18 mai 1845, il suppose que je demande la suppression des douanes. M. de Romanet se trompe. Je demande la suppression du régime protecteur. Nous ne refusons pas des taxes au gouvernement, mais nous voudrions, si cela est possible, dissuader les gouvernés de se taxer les uns les autres. Napoléon a dit « la douane ne doit pas être un instrument fiscal, mais un moyen de protéger l'industrie ». Nous plaidons le contraire, et nous disons « la douane ne doit pas être, aux mains des travailleurs, un instrument de rapine réciproque, mais elle peut être une machine fiscale aussi bonne qu'une autre. Nous sommes si loin, ou pour n'engager que moi dans la lutte, je suis si loin de demander la suppression des douanes, que j'y vois pour l'avenir l'encre de salut de nos finances. Je les crois susceptibles de procurer au trésor des recettes immenses, et s'il faut dire toute ma pensée, à la lenteur que mettent à se répandre les saines doctrines économiques, à la rapidité avec laquelle notre budget s'accroît, je compte plus pour la réforme commerciale sur les nécessités du trésor que sur la force d'une opinion éclairée. Mais enfin, me dira-t-on, à quoi concluez-vous? Je n'ai pas besoin de conclure, je combats des sophismes, voilà tout. Mais poursuit-on, il ne suffit pas de détruire, il faut édifier. Je pense que détruire une erreur, c'est édifier la vérité contraire. Après cela, je n'ai pas de répugnance à dire quel est mon vœu. Je voudrais que l'opinion fût amenée à sanctionner une loi de douane conçue à peu près en ces termes. Les objets de première nécessité payeront un droit ad valorem de 5%, les objets de convenance 10%, les objets de luxe 15 ou 20%. Encore ces distinctions sont prises dans un ordre d'idées entièrement étrangère à l'économie politique proprement dite, et je suis loin de les croire aussi utiles et aussi justes qu'on le suppose communément. Mais ceci n'est plus de mon sujet.